basse de me faire venir sans trop savoir ce qui pouvait se passer. C'est un honneur de venir pour honorer le Seigneur avec vous. Depuis de nombreuses années, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai bientôt 50 ans, je suis donc extrêmement jeune. Je viens de suivre Jésus. À l'âge de 6 ans, je suis né dans une famille catholique, quasiment né dans un élitisme. Et c'est avec le grand cadeau que le Seigneur m'a fait, c'est la foi que m'ont transmis mes parents étant enfant. J'ai toujours vu mon père insomniaque la nuit prendre son missel, dire l'office pendant la nuit, lire les lectures, lire l'évangile, ma maman prier le matin. Et pour un enfant, c'est édifiant. Et ma famille vient d'un milieu qui est plutôt traditionnel, du côté de ma maman très, avec des prêtres des fraternités qui sont plus très catholiques aujourd'hui. Et puis dans les années 80, il y a une rencontre avec Jean-Paul II et une conversion. Et puis, ils sont même allés, mes parents, de côté tradit jusqu'à Paray-le-Monial, pour ceux qui connaissent, où on dévissait les ampoules en louant le Seigneur. Et je suis né dans ce milieu-là, très ouvert, mais qui parfois, sur certains sujets, ferme assez tôt. Et j'ai eu ce bonheur et cette joie de vivre dans une famille chrétienne pratiquante et des gens qui vivaient la relation avec Jésus. Je sais que parmi nous, il y en a, vous avez eu cette joie-là. D'autres, vous êtes nés dans une famille chrétienne, culturellement, peut-être sans pratique. Et puis un jour, il s'est passé un déclic dans votre vie. Pour beaucoup de ceux qui sont dans le renouveau charismatique, il y a un avant et un après la rencontre qu'un jour on a fait avec le Seigneur. Moi, à l'âge de 6 ans, j'étais à Montmartre, à Paris, et clairement, le Seigneur m'a parlé en me disant « Est-ce que tu veux être prêtre ?» Je lui ai dit « Oui ». Et c'était réglé. La question de l'existence de Dieu, la question du sacerdoce, c'était réglé. C'est l'avantage du cœur d'enfant, c'est que lui, avant de se poser des questions, il a déjà les réponses, parce qu'il se connecte au Seigneur directement. Et ce cœur d'enfant, c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse grandir. Et qu'on le garde le plus possible, si on y arrive en nous. Et puis j'ai cheminé dans la foi, dans une vie d'adolescent, de jeune adulte, avec des hauts et des bas, des péchés et des grâces, des relèvements et des chutes. Et puis après avoir demandé au Seigneur, en terminale, ce qu'il voulait que je fasse, je lui ai dit, mais en fait, Seigneur, je vais faire un truc, c'est que je vais te donner un an. Un an pour me dire ce que tu veux. J'avais 19 ans. Et je savais que j'avais l'appel au sacerdoce, mais j'avais un petit peu quelqu'un dans ma vie quand même, qui s'approchait, en tout cas, je m'approchais d'elle. Et il y avait des choix à faire, mais tout en sachant que si c'était le sacerdoce, je serais. Et le Seigneur, lors d'une visite dans la communauté Saint-Jean, où je n'aimais rien, quand je dis rien, c'est rien. Ces gars habillés avec des sacs, avec des sandales qui semblent des pieds, coupés comme des spinelles. Vraiment rien là-dedans ne me plaît. Et au plein milieu du repas que j'ai, là-bas, parce qu'à l'époque, mon père était là-bas. Pas que du repas que je prends dans cette communauté, au moment du dessert, où il y a des crêpes, chocolat, banane, j'avais passé quelques heures dans le four pour rester chaude, tiède, humide et molle. La cuisine de communauté, vous pouvez demander comment ça se passe en communauté, on connaît ça par cœur. Donc un dessert dégueulasse. La même voix qu'à 6 ans, écoutant pas. La même voix qu'à 6 ans qui disait ici, tu vas rentrer. Et là, je vais revenir de la terre, donc j'ai crié non ! Même pas en rêve ! Plutôt creux maintenant, enfin non ! Je veux dire, c'était l'abomination, ce truc. Sauf que j'avais dit oui. Et c'était un moment où j'étais. pas vous compérer avec les Anglais. Mais c'est normal que vous l'appeliez. Non, je ne vais pas l'appeler. Jésus demande aujourd'hui. On fait ça tout le temps. Eh bien, moi, j'ai fait cet acte absolument fou de rentrer dans cette communauté par obéissance. Donc, eux, ils rentraient tous en disant « Ah, c'est beau. Ah, ça va être magnifique. Et on va adorer pendant des heures. Et on va faire la philosophie et la théologie. Et on va vivre en communauté. Ah. » Et j'y suis allé comme un agneau mené à l'abattoir. Ou un cochon vers son prochain, avant la saignée finale. Mais si je suis rentré, je suis en train de ces deux choses à la fois. La certitude que c'était ça. Et la volonté que j'avais pas, et la non-envie de le faire. Je faisais l'expérience tout à fait unique de l'obéissance spirituelle, qui n'est pas du tout l'obéissance sectaire qu'on a pu connaître dans des communautés comme la mienne, qui a eu un passif un peu compliqué, ou comme d'autres communautés, où nous avons tous eu des maladies connexes, où on te dit « va chercher du lait parce que c'est Jésus qui te le demande ». Il faut deux neurones pour comprendre que non, mais on a réussi à faire croire que oui, on était très fort. Non, l'obéissance spirituelle, c'était le fait d'être capable d'écouter le Seigneur qui dit « tu vas faire quelque chose » et qui si, « si, tu vas le faire, mais tu vas voir, je vais être avec toi ». Et ce qui va se passer, c'est que ça va être très beau et que je vais tout gérer. Et je vais vous dire, je suis devenu moi-même, ce qui n'est pas automatiquement une réussite, hein, vous l'entendrez dans votre tête, mais profondément heureux. Le Seigneur m'a formé. Même si mes parents m'ont formé, si la vie m'a formé, celui qui m'a formé par cet acte d'obéissance, je suis rentré en faisant la tête, en disant non, je ne veux pas, eh bien c'est le Seigneur. Et petit à petit, j'ai découvert que j'étais configuré naturellement à ça. Surnaturellement, le Seigneur m'ayant appelé m'avait configuré à ça. L'appel de Dieu m'avait configuré à une obéissance dans laquelle il pouvait faire de moi quelque chose. Alors peut-être vous allez vous demander si je vais donc prendre vous parler de moi, mais pas du tout, je vais vous parler de vous. Parce que l'appel de Dieu par le baptême vous configure à une obéissance qui vous fera devenir qui vous êtes. La modalité que moi j'ai vécue dans la vie religieuse n'est qu'une modalité de cela. C'est fondamentalement le baptême de qui nous sommes, ce que Dieu fait de nous qui compte. Nous sommes dans un monde, en tout cas en France, si j'imagine que vous êtes préservés de tout péché. Oui, exactement. En France, nous sommes dans la civilisation où le ressenti est considéré comme la vérité. Je ressens que je suis blessé quand tu parles, comme tu m'as blessé. Mais ben non, tu te sens blessé. Nous sommes dans une civilisation de la victime, il faut être victime. Hein? Donc là, par exemple, vous êtes victime d'un gars qui abuse de votre temps. Et de votre crédulité, il est temps que vous soyez libre. On est dans un monde où notre ressenti est la base, et non pas notre volonté et notre intelligence, où il suffit de se déclarer victime pour être quelqu'un, alors qu'il y a des vraies personnes qui sont vraiment victimes. Et on a oublié que notre statut fondamental ne devait pas se faire, notre identité ne devait pas se façonner autour de notre passé, qui peut être dramatique d'ailleurs, autour de notre histoire, autour de notre vécu. Mais notre identité devait se façonner autour du regard de Christ sur nous et de la relation avec le Christ. C'est cette relation seule qui me dit qui je suis. La relation avec le Christ commence par la relation de Christ sur moi. Qu'est-ce qui peut faire que le mal que j'ai reçu dans ma vie ne me définit plus? C'est quand il y a un bien plus grand que ce mal que j'accepte de saisir et qui me dit qui je suis. Dans la population française, en France, on dit que 15% de la population a été abusée. 15%. Si on fait des statistiques, dans notre assemblée, il y a des gens qui ont fait du mal et des gens qui l'ont subi. Et il nous faut tous choisir, fondamentalement, qu'est-ce qui va dire qui je suis? Qu'est-ce qui va me dire la personne que je suis? Est-ce que c'est ça? Et Dieu sait si c'est important et si c'est. Il faut accompagner, il faut être présent, il faut essayer de réparer, de faire tout ce qui peut être fait. Et être dans l'église en France, c'est pas commun. Parce que vous dire que quand vous baladez avec un ami, frère de Saint-Jean, ou de religieux, ou de prêtre, etc., on se demande si c'est pas un peu bizarre, vous voyez. Alors le monde est en train de voir que les problèmes d'abus sont partout. Mais encore plus intolérable dans l'Église. Et nous, il nous faut dans ce monde-là savoir qui nous sommes pour savoir d'où on vient, enfin savoir d'où on vient, qui nous sommes et où nous allons. Le monde n'a pas besoin de gens qui sont assis dans leur souffrance et qui se noient dedans. Il a besoin de gens qui sont des témoins parce qu'ils prennent leur identité de Dieu, de leur rencontre avec le Christ et que sous le souffle de l'Esprit-Saint viennent dans le monde, changer le monde et le transformer. C'est ce dont le monde a besoin particulièrement aujourd'hui. Parce que c'est vrai que mon vécu, votre vécu, nos vécus, nos expériences, le mal qu'on a pu vivre, le bien qu'on n'a pas vécu, toutes ces choses-là qui font notre vie et les merveilles aussi de nos existences. On nous demande de nous dire « Ah, regarde, ça c'est toi ». Et nous, il faut qu'on soit capable de dire non, ça fait partie de ma vie, mais ça n'est pas moi. C'est comme le péché. C'est une analogie. Le péché ne nous dit pas qui nous sommes. Carlos Payón, que certains connaissaient, avait cette phrase qu'il reprenait souvent. Le démon connaît ton prénom, mais il t'appelle par ton péché. Alors que Jésus connaît ton péché, mais il t'appelle par ton prénom. Et c'est important pour nous de savoir comment nous situer et de faire le point sur notre vie pour dire en fait dans ce monde, est-ce que je suis pas de Paul catholique? Et il faut que j'essaye de faire ce que je peux en disant excusez-moi de vous demander pardon d'être chrétien, même si je sais que je devrais honte et que peut-être ma présence crée un vécu embêtant chez vous et vous souffrez de le voir. Oui, il y a des gens, ils vous disent, mais comment osez-vous? How dare you? Comment pouvez-vous? Tu dis, oh, bon, bien, je me lève le matin, je suis comme je suis, mais le fait de voir les chrétiens qui agissent, ça les rend dingues. Eh bien, nous avons besoin d'être là. Le monde a besoin que nous soyons là. Pas parce qu'on est meilleur. Parce que si nous sommes qui nous sommes, au regard de Christ, si nous savons qui nous sommes, si nous avons choisi notre vie en n'étant pas une vie qui suit le monde, mais qui s'accroche au ciel, que notre direction, le cap, la finalité, c'est le ciel, frères et sœurs, on pourra changer le monde et le monde nous dira que faites-vous-là et vous direz vous en même, si vous voulez. Moi, je sais en tout cas où je vais. Et quand le monde ne sait pas où il va, quand il voit des gens qui savent où ils vont, eh bien, ça crée évidemment des jalousies, ça crée du trouble. Et pourtant, c'est tellement important. Parce que si nous ne leur annonçons pas le Christ, qui va annoncer le Christ? J'ai la joie et le privilège d'être un accompagnateur, d'intervenir dans un certain nombre de groupes de prière, de nouveaux. Et je ne vais pas vous dire que des choses qui vont vous faire plaisir. Il y a beaucoup de groupes qui meurent petit à petit. En espérant chaque samedi soir ou chaque dimanche, quand ils se retrouvent, retrouver l'onction qu'ils ont vécue dans les années 80, 90, pendant la deuxième, troisième, quatrième vague, où en fait on était tous par terre, sous tout ce que Saint-Esprit, à chanter en langue et à prophétiser, et qu'on était à Paray-le-Monial quand on était jeunes, pour ceux qui n'ont pas vu Paray-le-Monial partout, les miracles partout, etc. Et les groupes du renouveau charismatique se sont dit, on va continuer, parce que c'était trop bien. Et en 2026, ils sont là, ils font, ah c'est dur, ils n'arrivent pas vraiment là, c'est... Alors on fait toujours comme, là. Mais au niveau charisme, il n'y a pas grand-chose. Parce que nous n'avons pas fait le chemin de transformation qui a fait de nous des autres neufs. Et donc on voudrait vivre à nouveau dans des autres vieilles. Et le Seigneur fait c'est pas ça que je veux vous donner, c'est pas ça dont je veux vous donner. C'est vrai, il y a quelques années, dans les groupes de prière charismatiques, on imposait les mains aux gens et vivait des grâces folles. Mais partout, tout le temps. Et les charismatiques et les catholiques ont pris l'habitude d'aller dans ces groupes de prière parce que ça devenait un peu leur spiritualité. Moi, je suis charismatique. Et donc, je fais partie du groupe, le vrai groupe, des vrais charismatiques du cinquième jour de cette trompette. Et dans l'église catholique, on avait des groupes de prière qui étaient un peu des églises évangéliques, vous voyez. Et puis, quand on s'engueulait entre berger et bergère, et bien, on crée une nouvelle église de l'étoile du matin. Enfin, le nouvel groupe de prière, vous voyez, la septième vague. Et puis tout ça, c'est en train doucement de descendre. Et la question, c'est est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce que ce qu'on fait, c'est pas ça, ou est-ce que c'est qu'il y a un appel du Seigneur sur autre chose? Je crois que nous avons oublié qu'il nous fallait suivre le Christ là où lui le voulait, et que les charismes que nous avons cherchés, et parfois reçus et vécus pendant des années, n'était qu'un outil pour le travail que Dieu nous demandait de faire à l'extérieur, mais que faute d'avoir fait du travail à l'extérieur, on a cultivé les charismes à l'intérieur de nos groupes de prière, sans que des gens nous conviennent, et en restant un petit peu entre soi. Et le renouveau charismatique, en tout cas en France, ça peut-être rien à voir avec ce que vous avez ici, se retrouve fatigué. En disant, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a plus les onctions de Maboudin qu'on avait à l'époque? Et tout le monde prophétisait, ou tout le monde, où on vivait des choses folles et ça évangélisait. Là, on est fatigué, ça fait 40 ans qu'on travaille. Mais je voudrais vous dire combien le Seigneur vous remercie pour les anciens qui avaient porté ça pendant des années. Bravo, merci. Il y aura des choses au ciel pour vous, c'est sûr. Et la question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Quel est le besoin de son peuple aujourd'hui, qui n'est pas le besoin d'hier, qui n'est pas le besoin de demain? Et cette question-là doit être centrale dans tous les groupes de prière, dans toutes nos paroisses. Comme curé de paroisse, je passe ma vie à observer le peuple de Dieu, à renifler, à sentir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et c'est vrai que ça fait quelque temps que je découvre que la modalité de vie dans l'Esprit Saint est en train de changer. Pour passer d'une modalité où c'était l'Esprit Saint dans les charismes extraordinaires, pour manifester le surnaturel, un peu comme les groupes de prière qui devaient être un peu des salles de spectacle finalement, parce que quand ça envoyait du lourd, ben, on était des mots. Passer de ça à la vie quotidienne dans l'Esprit Saint pour beaucoup plus de gens, à l'intérieur de laquelle, obéissant à la volonté de Dieu, Dieu vient donner. D'obéir à sa volonté et vient donner des manifestations tout à fait inattendues. Nous sommes appelés à vivre une conversion de la recherche du surnaturel à l'obéissance quotidienne et humble au Saint-Esprit qui va impliquer que l'Esprit Saint se manifestera. Vous voyez, c'est pas venir dans un groupe pour voir des merveilles, c'est aller au boulot pour faire ce que Dieu nous demande, et en réponse de cette demande que nous allons faire, de cette obéissance, ça voulait dire. Et donc on a cherché régulièrement à vivre des effusions qui transformaient notre vie. L'effusion du Saint-Esprit, on doit la chercher, évidemment, on doit la vivre. On priera pour ça aujourd'hui. Mais ça n'a qu'une seule finalité, la vie missionnaire, la vie apostolique, la mission pour nous tous. Le baptême nous donne tout ce dont nous avons besoin. Le baptême nous fait plonger dans la mort et la résurrection du Christ et fait de nous des alters Christus, des autres Christ pour le monde. Nous sommes des autres Christ pour le monde, c'est-à-dire que le monde peut vivre la même chose qu'il vivait quand il y avait Jésus à côté. C'est-à-dire qu'il peut nous crucifier, hein, il fait ça bien. Mais surtout, à travers les chrétiens et à travers les baptisés, le monde peut faire l'expérience qu'il avait avec Jésus-Christ à Nazareth, avec les Hébreux de Jérusalem. Mais vous le savez peut-être pas, on ne vous l'a peut-être pas expliqué, parce que moi, on m'a expliqué au catéchisme que être chrétien, c'était être gentil. Qu'il fallait aimer son prochain, respecter la nature, descendre les nouvelles de la même vie. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça s'appelle être humain. Vous voyez, la loi naturelle nous dit, quand on est dans la nature, juste qu'on a un peu de bon sens et du jote, être sympa avec nos voisins, eh bien c'est bien. Ne pas tuer quelqu'un, c'est bien. Ne pas voler, c'est bien. Et comment on le sait, c'est quand on fait du mal, on dit que à l'intérieur, ça ne va pas. Alors que quand on fait du bien, ça va bien partout. Donc les gens même qui ne connaissent pas Jésus, c'est ça. Et on a confondu l'humanité avec la chrétienté. Oui, les chrétiens doivent être des êtres humains, des bons pieds sur la terre, suivre la vérité, bien sûr. Mais nous, les chrétiens, nous sommes faits pour aller beaucoup plus loin que ça. Nous sommes faits pour recevoir la présence de Dieu en nous, entendre ce que Dieu veut nous dire et le dire au monde. Certains, de manière extraordinaire, auront un charisme qui fera qu'ils vont aller remplir des églises, des stades, des machins, Dieu leur donnera envie de prêcher partout, etc. Super. Mais c'est uniquement certains. Vous voyez, le fait qu'on soit prêtre, prophète et roi, c'est une certitude, mais la manière, la modalité de vie n'est pas la même pour tous. On parlera de la prophétie cet après-midi. Mais la grande modalité fondamentale à laquelle nous sommes tous ouverts, j'espère, en tout cas nous en sommes capables, c'est l'obéissance. Oui, ça donne pas envie. Si je vous avais dit c'est la joie, l'amour, la joie, c'est vrai. Moi je vous dis l'obéissance. Alors on y va, je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez dire, c'est ce que je travaille depuis plus d'un an, mais je crois que c'est une clé que j'aime à partager, ça finira peut-être en livre, mais c'est plus rigolo de vous raconter comme ça. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que juste le premier combat qui a été mené, c'est un combat contre l'obéissance par le démon. Figurez-vous juste, vous avez, j'ai un petit espace pour vous faire des dessins dans le ciel comme ça. Vous avez en haut Dieu. Et il a créé tous les anges. Il y a 9 catégories d'anges. Séraphin, chérubin, trône, puissance, principauté, vertu, domination, et il m'en manque un, archange, ange. Souveraineté. Et puis au-dessous des anges, il y a nous. Dieu, il aurait pu dire, il est une race d'ange, il en a fait 9. Le plus grand de tous ces anges, c'est le porteur de la lumière, Lucifer. Lui, il avait comme rôle de prendre la lumière que Dieu donnait et de le donner à tous les autres anges. Parce que comme ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de parole, ils ne peuvent pas être bavards comme nous. Ils peuvent être bavards, mais ils ne parlent pas. Ils n'ont pas de sens. Donc que fait Dieu? Il donne la lumière au premier, au séraphin, qui la donne à tous les autres. Et ça descend jusqu'à nous. Et il fallait que le séraphin, il accepte le premier, le plus grand de tous, le plus beau gosse au niveau des anges. Vous voyez, c'est... Il faisait la couverture du Paris Match chez les anges. Le plus beau truc, le porteur de la lumière, Lucifer, qui était vraiment vachement bien, eh bien il fallait qu'il accepte de faire ce que Dieu lui demande, à savoir, tu prends le mystère de Dieu, tu vas donner aux petits hommes qui sont eux, ont le corps, l'arc vulgaire, et que pourtant Dieu a mis au sommet de la création, à mes terres injustices, je refuse de servir, je refuse d'obéir. Il lui dit, mais en fait, c'est un acte d'amour que tu fais en faisant ça. On sert les autres, on se donne pour les autres. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Et il dit à la femme, alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Et le serpent répliqua à la femme, mais pas du tout, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu fait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, et qui était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était là avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des paillettes. La seule chose que Dieu leur demandait, c'était d'obéir. Faites-moi confiance. Faites ce que je vous demande. Juste, je suis Dieu. Vous, vous êtes vous. Regardez tout ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas bien là? Et Ève et Adam ont écouté le démon, ils ont désobéi. La désobéissance des premiers et du premier, du démon et des autres, a fait rentrer dans le monde le cataclysme du péché originel. Et toute notre humanité, nous payons encore ça. Quel est le premier mot qu'on apprend à dire quand on est enfant et qu'on vraiment nous demande de faire quelque chose? Non. Est-ce qu'il faut être non? Quand on est adolescent, range ta chambre, non! Paye tes impôts, non! Notre vie consiste à être fondamentalement en lutte contre l'obéissance à la loi naturelle, c'est-à-dire le bien que Dieu a mis dans notre vie, à l'évangile et à la loi de l'Église, qui est pourtant le lieu de l'obéissance. Or, l'Esprit Saint est donné à ceux qui lui obéissent. Et on n'a jamais fait attention à ce truc obéissance. Parce que l'obéissance, c'est vrai, ça va, c'est bon. Plus, moi, je veux dire, je suis français, quand vous avez une ligne rouge, une ligne blanche sur la route, parfois, on la trouve facilement pointillée. Hein, voire pas tout à fait légitime. Voire inexistante. Sauf que obéir, ça nous rend dingue. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, le grand enjeu pour nous, c'était d'accepter, de retrouver le sens de l'obéissance fondamentale que Dieu avait voulu pour nous tous, pour que la grâce de Dieu puisse se donner, se répandre et se donner à tous. C'était ça la grande clé, la clé fabuleuse. Que fait Jésus? Il nous dit tout le temps dans la parole, je ne fais rien que je ne vois mon Père faire. C'est-à-dire que Jésus regarde le ciel, vous connaissez la multiplication des pains, c'est incroyable. Jésus monte à la montagne avec ses apôtres et ses disciples. Ils sont en haut de la montagne. Et il y a marqué, Jésus leva les yeux au ciel. Il ne fait pas comme un ado. Non, non, il lève les yeux au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il voit son Père. Ok. Cinq parts de poisson. Ok, c'est parti. Pierre, André, Jacques, il y a du monde qui arrive là. Ah oui, vous les voyez, oui, c'est ça. Ben, vous allez les nourrir. Mais Jésus, on va pas les nourrir, on a rien. Faites-les asseoir. Et Jésus, il va avoir une énorme classe, parce qu'il savait ce que son Père voulait faire. Il fait qu'on fasse asseoir cette foule. Vous voyez, ça devait plus, ça devait avoir de la gueule. Jésus devait faire ça avec panache. Donc, oui Seigneur, donc ils vont faire asseoir tout le monde et ramener ce qu'on a à manger. Vous avez un donut, un paquet de chewing-gum, enfin 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit que l'on distribue tout cela. Il est malade. Non, bah, pas du tout. J'imagine
qu'intérieurement, ils ont dû dire, Jésus, il va pas bien. Hein.
Ils vont avoir faim. Ils ont peut-être distribué d'abord les arêtes. Ne vous piquez pas, madame. Et rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus, il savait ce qu'elle fait. Ce qu'il avait vu son père, donc il fait ce que son père lui dit. Il obéit. Mais il n'y a pas que lui qui obéit. Les apôtres, ils mettent la main dans le plat, prennent le morceau de poisson et ils donnent. Et quand ils le donnent, au moment où ils le donnent, il y en a un autre qui est là. C'est un récit que j'ai eu d'un ami qui s'appelle Maxime, que certains ont peut-être connu, là, le moins de fusionnier, un gros Maxime Boite, avec qui je prêche souvent. Il m'a raconté qu'un jour ils s'occupaient de nourriture à Rouen, dans la communauté de Béatitude, et ils avaient prévu des cuisses de poulet pour 400, sauf qu'ils se retrouvent à 700. Ils ont passé la journée à ouvrir le camion frigo, qui d'ailleurs le matin ne pouvait pas démarrer chez le fournisseur de poulet du camion frigo. Et donc les gars n'arrivent pas à faire démarrer le frigo. Mais Maxime, embêté dans le courant, lui disant: Seigneur, il y a du monde à nourrir, vous débrouille, il fait. Dans le nom de Jésus, tu démarres. Et ils arrivent à Rouen, et ils servent, et à la fin de la journée, ils savent qu'il sait qu'il ne reste pas beaucoup. Et puis tous les gens, après les tickets, il y a des tickets, à chaque fois, ils ouvrent le camion, il y avait du poulet. Parce que le Seigneur avait décidé, et Jésus. Les apôtres obéissent. Et qu'est-ce qui se passe, l'expérience de tous, c'est qu'ils mangent. Leurs besoins, il y a une réponse qui est donnée. Mais il a fallu que Jésus obéisse à son Père, que les apôtres obéissent à Jésus. Et il lui fallut normalement que la foule, excusez-moi, il lui fallut que la foule obéisse en adorant le Père au retour. Et eux, ils se sont dit, mais ce Jésus qui nous fait manger gratos, c'est super bien. Quand le sage contre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, eux, au lieu de regarder qui Jésus manifestait à travers ce don, ils ont regardé Jésus, ils ont voulu faire de lui leur roi. Et c'est là qu'ils ont parlé. Notre rôle à nous, c'est d'être. Pierre, c'est André, c'est Jacques, c'est Jean, qui faisons ce que le Seigneur nous demande au quotidien, parce qu'il sait ce qui doit être fait. Et si nous choisissons de faire ce que Dieu nous demande au quotidien, eh bien la gloire de Dieu va se manifester dans le monde. Nous voulons voir des miracles, n'attendons pas des groupes de prière d'être d'abord un lieu miracle. Mais attendons de notre vie d'être le lieu où Dieu vient nous donner toutes les grâces dont le monde a besoin, dans le monde où nous sommes envoyés. Vous n'êtes pas par hasard dans le job où vous êtes, dans la famille pour laquelle vous travaillez, chez un tel, chez qui vous faites telle chose. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est l'histoire de Dieu et de vous qui vous a mis là pour sa gloire. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et si vous choisissez d'accepter que Dieu fait tout concourir à votre bien si vous l'aimez, même si actuellement vous êtes dans une situation où c'est globalement pourri, la grande question c'est: Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour, dans cet endroit, dans cet espace-là, entendre ce que tu me demandes de lui? Et le faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que quand vous comprenez les choses que Dieu vous demande de faire, eh bien, vous le réalisez, vous allez le faire, et les miracles viennent. C'est fou, mais ça fait quelques années maintenant que je considère que toute situation est une opportunité. Il y a ceux qui font ça dans le business. C'est ouais, il faut faire de toute épreuve une opportunité, change, make America great again. Eh bien, nous, on a oublié de le faire avec le Seigneur parce qu'on a oublié que Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, dans la mouise, parce qu'il m'arrivait un problème, ça m'arrivait que j'ai ma voiture qui m'a lâché. Je passe les détails, mais c'est plus de belle note. On m'en a prêté. Et si Seigneur, je suis sur l'autoroute, je pars, c'était il y a 2 semaines, j'emmène un groupe, ça ne va pas du tout. Donc, au moment où je suis tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, 2 solutions, enfin 2 paroles, quand j'ai pris l'habitude de dire: Ok, Seigneur, trouve dans mon cœur. Et je commence à dire, ok, je vais rencontrer des gens. Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse ou que je dise avec ces personnes, oh, c'est d'accord. Et à partir de là, tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, parce que ça ne t'appartient pas. Ça lui appartient à lui. Mais il faut choisir fondamentalement d'être missionnaire où que nous soyons. Même si vous allez aux quatre gamins, vous allez en fauteuil, vous êtes missionnaire. C'est compliqué que vous y arriviez. Parce que vous verrez que Dieu sera capable de donner la grâce dans ces moments. Et me voilà en panne sur le bord de l'autoroute, récupérer à un moment donné donc par un dépanneur. Et je dis, Seigneur, il faudrait quand même qu'il se passe un truc. Bon, je vous passe les étapes, mais je vais me marier bientôt. Il fallait qu'il rencontre un prêtre pour pouvoir être marié avec sa femme. Mais ça va être fait. Et d'une panne, on fait ça. Un jour, je vais chez. Vous connaissez IKEA ici. Quel est le produit le plus important chez IKEA? Attention, il y a un pire. Est-ce qu'il y en a qui savent? Qui savent? Mais non, les dindes. Le thym chocolat caramel. Je disais à quelqu'un, je ne suis pas gros par problème hormonal. Hein, c'est la même. C'est très clair. Le thym chocolat caramel. Un jour, il y en avait plus dans ma paroisse à Avignon. Et donc, on va, je vais chez IKEA. Et là, l'horreur, ils ont remplacé les thym chocolat caramel par des thym orange chocolat. Ça valait le coup de fermer IKEA. Et je pars de là avec mon compte à soi en disant, mais si c'est comme ça, je m'en vais. Et il y a une petite voix en moi qui fait, c'est sûr. Je dis, bon, ben Seigneur, faisons quelque chose si tu veux. Et faisons quelque chose. Et là, il est sur le parking de Lyon. Et je vois devant moi une scène que peut-être vous pouvez imaginer. Vous avez Michel et Micheline, un couple. La porte est ouverte, Michel est comme ça, il s'est démarré, Michel est dans le capot qui est ouvert, vas-y, il démarche, chérie. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui se passe. Vas-y, réessaye. J'ai demandé le gars qui ne connaît rien. Et je les vois en bas, ils n'arrivent pas à allumer leur voiture. Je dis, ah Seigneur, est-ce que tu m'envoies là? Ouais. Le sentiment que vous. Je leur dis, ça va, ça va? Ben non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Vous permettez? Seigneur Jésus, publiquement, il faut y aller, c'est trop cher. Viens bénir cette voiture, qu'elle démarre pour que cette personne puisse te rencontrer et que de résoudre notre problème. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais aller, si madame démarrer, elle n'écoute pas son mari, elle démarre et la voiture. Pour vivre de ce nom que nous avons reçu. fera de nous des saints et des saintes. Et je peux même vous dire que les légendes qui sont au ciel, qui sont bon Jésus, c'est marqué dans la parole, dans l'évangile, ils diront: Seigneur, en ton nom nous avons prophétisé, et Jésus leur dira: arrière, je ne vous connais pas. Il n'y a aucun rapport entre l'exercice des charismes et la sainteté. Il n'y en a pas. C'est pas parce que tu as une grosse bagnole que tu es un mec bien. C'est pas parce que tu as de l'argent, que tu as du pouvoir, que tu es quelqu'un de bien, ou que tu n'en as pas, que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est à un autre degré, c'est à un autre niveau. Il n'y a pas de spiritualité charismatique. Ça n'existe pas. Moi, ma vie, elle est charismatique, mais tous les chrétiens devraient l'être. Le renouveau doit se dissoudre dans l'Église, parce que c'est toute l'Église qui apprend à écouter les autres. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on observe. En tout cas, en France, on voit ça qui est en train de se faire. Et de plus en plus de parcours, j'ai vu, vous avez la couleur, etc. C'est vachement bien. Plein de choses pour des gens tout à fait normaux qui ne sont pas des délirants, donc je fais exprès, des gens charismatiques à fond. Non, le charisme est en train de rentrer dans l'Église. Mais je reviens sur mon petit exemple que je vous ai donné. Ce n'est pas par le charisme qu'on est des saints. Le charisme, c'est un outil en vie. On est des saints par la vertu, c'est-à-dire la lutte contre notre péché. La vertu qu'on va exercer au quotidien. Les combats qu'on va mener contre le mal, pour le bien. Attention, le mal dans notre vie, pas avec les chevaliers qui mènent les grands combats extérieurs, à moins que le Seigneur nous y appelle, mais tout le monde n'est pas jeune d'âge, vous voyez. Cette vie-là, cette sainteté que nous devons chercher, elle se vit par la charité. À quoi servirait d'avoir un charisme si on ne vit pas la charité? J'aurais beau parler la langue des hommes et des anges, si je n'avais pas la charité, je ne suis guérin qui sonne. Oui. Mais demande les charismes, certes, mais surtout demande la charité, demande l'amour pour ton prochain, parce que c'est là-dessus que tu vas être jugé. Le charisme, sans la charité, n'est rien. La base de notre sainteté, c'est d'aimer. Et donc de nous laisser aimer et d'aimer les autres. Et d'aimer d'une manière héroïque, c'est-à-dire pas juste avec notre propre force, mais en nous connectant à l'amour de Dieu pour que cet amour vienne descendre en nous. Et figurez-vous, c'est des vases communicants, c'est quand je choisis d'aimer avec un amour que je n'ai pas que l'amour de Dieu peut m'être donné. C'est quand je cherche à donner et que je donne ce que je n'ai pas que Dieu peut me le donner. C'est pourquoi notre sainteté, ça va être d'abord et avant tout le combat pour l'amour au quotidien. De pouvoir aider celles et ceux qui en ont besoin, d'être dans la charité. La vie communautaire que saint Thomas d'Aquin appelait maxime pénitentiae, la plus grande de toutes les pénitences, ne se supporte que par la charité. On sera saint et sainte quand notre charité aura tout pris, quand elle aura brûlé tout ce qu'il y a. Et c'est parce que là où nous sommes, nous allons essayer d'avoir une vie de vertu et une vie de charité. Une vie dans laquelle nous allons lutter contre cette tendance au bavardage, contre les mensonges, parfois au vol, parfois à la malhonnêteté, parfois à la rancœur, parfois à tout ce que vous voulez, chacun son. Tous les péchés sont là, ça peut être le plaisir, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, toutes ces choses-là. Eh bien, on peut se laisser aller à tout cela, ou bien lutter dans notre vie, héroïquement. Et ça, c'est quand on arrivera au ciel et quand on mourra, on sera à plat par terre. Mais tout donné, il n'y a plus rien. J'ai pas bien réussi, mais j'ai tout fait. Et Jésus dira: lève-toi, parce que moi j'ai vu le combat que tu as donné. Bravo pour ce combat. La perfection ne viendra pas de l'absence d'imperfection, hein, mais de la grandeur de notre générosité dans l'exercice de la vertu et de l'amour. Et ça fera de nous des. Figurez-vous, et je reprends mon image, je n'ai pas commencé. Imaginons un appartement. Un lieu qui est notre cœur dans lequel Dieu doit habiter pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Eh bien, cet appartement, il faut lui donner des jolies courbes. Il faut le rendre habitable, il faut le rendre aimable, et ça, c'est la vertu. Cette colère que j'ai pas pour lequel je vais bosser, la tempérance pour éviter la colère, le fait que je sois accroché à mon bien, mon petit pouvoir, ok, le partage, le fait que je trouve que les autres sont tous nuls et que moi je suis ok, l'amour. Et cet exercice des vertus de la charité va avoir comme conséquence de créer cet espace incroyable à l'intérieur duquel Dieu va pouvoir venir. Mais attention, il faut remplir cet espace de l'Esprit-Saint pour que nous puissions agir comme Jésus agirait. Il nous faut absolument faire ce qu'il faut pour que cet espace pour lequel on essaie de se battre, eh bien, il soit rempli. Vous savez, les chrétiens, on leur a dit, pour toute la génération d'après-guerre, il y a le bien, le mal, l'enfer. Soit tu vas dans le bien, soit tu vas en enfer. Et ils se sont battus pour avoir des vies droites. Et puis, même si c'était pas rigolo, rigolo, hein, ces gens. Mais ils ont cherché à avoir une vie vertueuse, et bravo à eux, peut-être un peu moralisatrice et moralisante. Puis il est arrivé les 68, on a fait laisser tomber notre morale, ce qui compte, c'est l'amour. Il est interdit d'interdire les uns sur les autres, vous allez voir, ça va être vraiment bien. Et bien on est passé d'un extrême à l'autre, on a fait trop de morale, plus de morale. Mais en fait, il faut la morale qu'il faut, il faut la vertu qu'il faut, il faut un sens du bien, du mal, du travail sur soi. Pour que vous et moi, frères et sœurs, nous convertissions, conversion humaine, par le boulot sur soi. S'il faut aller voir un psy, on va voir un psy. On va se soigner, on va se faire aider pour changer nos trucs qui ne vont pas. Oui, on bosse, on y va et on fait par amour, sainteté. Et j'ai un trou de mémoire. Ça va? Ça se passe bien? C'est dans un élan et j'ai trempé le de. On fait une pause de 2 minutes. C'est qu'il faut 2 minutes.